Décryptage. Amélie Beaucourt.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Dans Décryptage ce soir, le Conseil constitutionnel est-il encore véritablement indépendant ou est-il devenu une instance politique ? 3 sièges sur les 9 sont renouvelés cette année, dont celui du président du Conseil, précédemment occupé par Laurent Fabius, qui avait été nommé par François Hollande. C'est au tour d'Emmanuel Macron de choisir son candidat et c'est le nom de Richard Ferrand, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est sorti du chapeau. Un profil qui dérange, un homme politique sans connaissance particulière de la Constitution, un fidèle du président de la République. Si les nominations des sages passent parfois par le copinage, comment s'assurer qu'il soit réellement indépendant de l'exécutif et du législatif ? Quelle est la part de politique ? De quel pouvoir et de quelle marge de manœuvre dispose réellement le Conseil constitutionnel ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Thibaut Mullier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste du droit constitutionnel et auteur du livre « Les relations extérieures de l'État en droit constitutionnel français » publié chez Maré Martin. Pour commencer, Thibaut Mullier, un mot peut-être sur le rôle de ce Conseil constitutionnel. Quand est-ce qu'il est né et pourquoi faire à l'origine ?
Alors le Conseil constitutionnel est né en même temps que la Constitution de 1958, donc celle de la Ve République, et c'est un Conseil qui a une compétence double, enfin elle a d'autres compétences plus marginales, qui consiste d'une part, c'est le gros du morceau si je puis dire, à contrôler la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire à s'assurer que eh bien le contenu comme la forme d'adoption et la procédure d'adoption de la loi respectent bien les dispositions de la Constitution, que ce soit les articles numérotés de cette Constitution ou depuis un certain nombre d'années ce qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement et d'autres textes ô combien importants. Et l'autre compétence importante, c'est que c'est un juge de contentieux électoral, c'est-à-dire qu'il est le juge de l'élection du président de la République notamment, et des élections nationales type Assemblée nationale, député et sénateur. Et il est aussi garant de la bonne organisation des référendums nationaux. Donc il a un rôle qui est structurant, très important, mais qui est à contextualiser, c'est-à-dire que en 1958, le Conseil constitutionnel est d'abord créé au service de l'exécutif et dans une certaine mesure par l'antiparlementarisme très franco-français, mais particulièrement important en 1958, parce qu'on a une période où les rédacteurs de la Constitution sont en quelque sorte un peu des traumatisés des 3e et 4e Républiques. Ils ont interprété, à tort ou à raison, ces deux précédentes Républiques comme des Républiques où le Parlement était déviant, trop puissant, et in fine le législateur. Et donc il fallait trouver un moyen de le contrôler, l'encadrer, et le Conseil constitutionnel était un des moyens parmi d'autres dans le texte constitutionnel pour encadrer et limiter l'action et du législateur et de l'organe parlementaire.
Donc ce sont 9 membres nommés pour un mandat de 9 ans chacun, mais qui prennent leurs fonctions tous les 3 ans. C'est au président de la République, au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale de soumettre chacun un candidat. Est-ce qu'il y a des critères, des prérequis dans le CV pour devenir un sage ?
Absolument aucun. Le dispositif français n'est, comme d'autres, les États-Unis, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'exigence particulière, si ce n'est que tout repose ou presque sur l'éthique d'action des autorités de nomination. Et dans certaines démocraties modernes, l'absence d'obligation, de condition, d'une quelconque compétence, d'un critère d'âge, que sais-je, conduit quand même les autorités de nomination à nommer des personnes qui sont compétentes sur le plan du contentieux constitutionnel principalement. Et en France, ça n'est pas le cas. La pratique, essentiellement, il n'y a pas eu que des non-sachants du contentieux constitutionnel, mais l'essentiel des autorités, des personnalités nommées, des 9 membres nommés au Conseil constitutionnel, sont des personnes qui n'ont peu ou pas de compétences en droit, voire pas du tout de compétences en contentieux constitutionnel, quand c'est des personnes anciennement magistrates ou avocats, mais qui n'ont pas exercé sur ce type de contentieux-là. Et c'est d'autant plus intéressant, mais en même temps assez inquiétant, que le Conseil constitutionnel, si historiquement il est créé pour encadrer, limiter, enserrer dans un lacis de contraintes le législateur, il est devenu une juridiction tout à fait importante, garante de l'état de droit et notamment garante du respect des droits et des libertés garantis par la Constitution à partir de ses jurisprudences essentiellement dans les années 70, puis grâce à une révision de la Constitution qui remonte à 2008 et qui lui a permis, en plus de contrôler la constitutionnalité des lois une fois qu'elles étaient votées, mais avant qu'elles soient promulguées, et bien désormais, même les lois qui sont en application par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC. Aussi appelée QPC, et bien permet un contrôle pour les lois beaucoup plus concret, pour les lois qui sont déjà entrées en application. Et son rôle a considérablement été transformé et pris de l'ampleur à partir des années 70 et encore plus depuis 2008 par rapport aux autres standards étrangers. Mais la pratique et les personnes nommées au sein du Conseil constitutionnel sont essentiellement, mais pas intégralement, des personnalités plutôt du milieu politique ou qui ont fait une carrière politique et qui n'ont pas ou peu de compétences en droit.
Très bon exemple donc cette année avec Richard Ferrand, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est le choix d'Emmanuel Macron pour remplacer Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel. Ça fait beaucoup parler parce que Richard Ferrand est connu comme étant un proche d'Emmanuel Macron, un fidèle de la première heure. Il a aussi été le chef de groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. On parle dans les couloirs de l'Assemblée nationale de République des copains. Est-ce que vous trouvez que cette expression, cette critique est justifiée ?
Oui, dans une certaine mesure, oui. En tout cas, même si elle n'est sincèrement pas une République des copains du point de vue des autorités de nomination, elle donne cette impression. Et je crois que les effets et les dégâts sont tout aussi problématique. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une République des copains parce que je crois savoir que même chez les anciens politiques, il y a des personnalités qui, sur le plan du droit en général et sur le plan du contentieux constitutionnel, font preuve de plus de compétences que Monsieur Ferrand. Ça ne veut pas dire que c'est une personne incompétente pour l'œuvre qu'il a pu réaliser, mais en particulier là, pour une tâche aussi importante que contrôler la constitutionnalité des lois, ça laisse assez songeur, et d'autant plus que ça pose des questions assez régulières, à dire vrai, qui se pose et qui fait l'objet de critiques de la part de la doctrine des constitutionnalistes tous les 3 ans, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nomination, c'est quid de l'impartialité de ses membres sont d'anciens politiques, sont parfois des proches, et Emmanuel Macron, qui représente le Nouveau Monde, est en fait dans une pratique très ancien monde, parce que je ne crois pas que Jean-Louis Debré, qui avait été nommé par Jacques Chirac, était particulièrement étrangère à la personne de Jacques Chirac, ni même Laurent Fabius pour ce qui était de François Hollande. Donc on est sur des personnes nommées souvent proches, pas exclusivement, mais souvent proches, et qui, même si on n'a pas forcément des éléments matériels qui démontrent un manque d'impartialité systématique ou récurrent, ça donne une apparence de manque d'impartialité, ce genre de nomination, et ce qui est tout autant, ce qui est vraiment problématique quand il s'agit d'une juridiction qui, désormais, qu'on le veuille ou non, a les attributs d'une cour constitutionnelle garante de l'état de droit.
Tout repose en fait sur l'éthique personnelle de chaque candidat.
L'éthique, oui, mais ce serait presque, à mon sens, une excuse un peu facile, dans le sens où je crois que surtout ça trahit la vision qu'ont les acteurs politiques, et notamment celles et ceux qui exercent des responsabilités vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Et le temps long de l'histoire doit nous rappeler que, en France, nous sommes un pays qui a très longtemps, pendant plusieurs dizaines, voire quelques siècles, a longtemps sacralisé la loi comme expression de la volonté générale au-dessus de toute volonté. Et même si désormais c'est intégré dans la pratique du législateur que eh bien la loi doit respecter la Constitution et les droits et libertés constitutionnellement garantis, il y a quand même un rapport à la justice en général et au contrôle de constitutionnalité qui n'est pas à détacher eh bien, de cette architecture historique qui rappelle que oui, le politique est assez méfiant eh bien, de tout ce qui remettrait en cause la loi expression de la volonté générale. Et à cela, il faut ajouter hein, que... eh bien, il y a une vision des choses qui est assez, je crois, problématique, mais qui, là, se retrouve aussi dans d'autres questions et d'autres juridictions. C'est, en France, il y a une représentation et on ne s'inquiète pas trop, eh bien, qu'il puisse y avoir une certaine porosité entre des institutions juridictionnelles et le pouvoir politique. Or, l'impartialité, l'exigence d'impartialité dans un état de droit, et notamment l'impartialité qui doit caractériser toute juridiction, et donc le Conseil constitutionnel, eh bien, devrait être au premier rang des préoccupations, et ça n'est pas le cas, manifestement.
Est-ce que le Conseil constitutionnel a lui-même un gendarme ?
C'est la question classique de qui gardera les gardiens ? Et la réponse est... Non, de manière générale, il n'a pas de gardien, il n'a pas de gendarme, dans la mesure où toutes ces décisions ont autorité de choses jugées, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous les pouvoirs publics, mais le seul, si je puis dire, qui pourrait remettre en cause le Conseil constitutionnel, c'est le souverain. Par une révision constitutionnelle où là on changerait carrément eh bien ses compétences ou même son existence si on va très loin dans la révision de la Constitution, mais le Conseil constitutionnel lui-même l'a admis puisqu'il a rendu un certain nombre de décisions à chaque fois où il était question soit d'une révision de la Constitution, mais aussi d'un référendum de l'article 11, c'est-à-dire un moyen d'adopter une loi, mais pas par le Parlement, mais directement par une expression du peuple. Et le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi, non pas votée par le Parlement, mais adoptée par référendum. Si bien que, une loi adoptée par référendum qui irait contre une jurisprudence du Conseil constitutionnel, en soi, il pourrait très bien s'estimer incompétent, et donc ce serait une forme de maintien de l'ordre, si je puis dire, du Conseil constitutionnel.
Alors avant d'accéder au Conseil constitutionnel, les candidats doivent quand même être auditionnés par les parlementaires des deux commissions des lois, donc il y en a une dans chaque chambre. 73 députés d'un côté et 49 sénateurs de l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'une formalité ou est-ce qu'il y a de vraies chances que l'un des trois candidats soit retoqué ? Est-ce que ça s'est déjà vu ?
Alors, de manière générale, ce type de contrôle-là est une innovation de la révision constitutionnelle de 2008 et qui est tout à fait intéressante parce que jusqu'à présent, la nomination des membres du Conseil par le président de la République était totalement discrétionnaire. Le président n'avait aucune limite. Donc, en soi, ce contrôle des commissions des lois était important en 2008 parce qu'il venait un peu limiter ce pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais son organisation est tout à fait particulière. Puisque pour vous opposer, il faut que vous additionnez et que cette addition fasse 3/5 de vote négatif. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, même un vote négatif à la majorité, mais qui n'atteindrait pas le ratio des 3/5, eh bien, vous permet quand même d'accéder à votre fonction. Ce qui est tout à fait particulier. C'est quelque chose qui a été plus ou moins pensé pour éviter d'être trop contraignant. Mais on a déjà eu un précédent d'une nomination par le président de la République qui a été retoquée par les commissions des lois. C'était la personne nommée à la tête de l'ADME. Et il n'est pas impossible, mais c'est, je trouve, relativement conjoncturel, que pour M. Ferrand, eh bien oui, il y ait un vote négatif, étant donné qu'il y a manifestement une opposition de la part des députés majoritaires, en tout cas à l'Assemblée, et les Républicains qui sont majoritaires majoritaires, eux, au Sénat, eh bien, n'ont pas l'air très ravis de cette nomination. Et sans voter négativement, si vous vous abstenez, vous baissez eh bien, d'autant le nombre de suffragés exprimés pour atteindre ce ratio des 3/5 de vote négatif. Et donc, une abstention n'irait pas vraiment en faveur de la nomination, enfin, de la confirmation de M. Ferrand.
Parce qu'il y a effectivement plusieurs choses qui dérangent la droite du côté de Richard Ferrand. Il y a sa proximité avec Emmanuel Macron. Le fait, on l'a abordé tout à l'heure, qu'il n'ait pas de connaissances particulières dans le droit. Le fait aussi que son nom ait été cité dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il était accusé de prise illégale d'intérêt, mais finalement l'affaire a été prescrite, donc il n'y a pas eu de dénouement. Est-ce que ça va peser dans la balance, à votre avis ?
Alors sur le problème de sa compétence en droit, ce serait un peu, c'est un peu curieux de le comme reproche dans le système français. Moi je le comprends, un peu culotté, je le comprends tout à fait, pas par esprit de corporatisme, c'est juste que il faut mieux mettre des personnes compétentes sur le fond sur ces questions-là, j'imagine. Mais l'essentiel des personnes nommées, encore une fois, n'ont pas particulièrement de compétences en contentieux constitutionnel. Mais oui, il y a d'autres difficultés. Il y a la première, c'est que il a bénéficié d'une prescriptions qui ont fait tomber eh bien, ses poursuites judiciaires, mais donc ça alimente quand même une suspicion que c'est quelqu'un qui est en délicatesse avec la justice, mais en plus sa proximité avec Emmanuel Macron, qui va ensuite exercer encore 2 ans hein, le pouvoir, eh bien, ça interroge de fait la question de l'impartialité. L'impartialité, ce n'est pas ne pas avoir d'a priori sur quelque chose, parce que tout juge, quand il juge, il fait œuvre d'interprétation et donc il est nécessairement traversé par des biais personnels. Mais l'impartialité, c'est l'idée de ne pas avoir pris définitivement parti pour quelque chose. Or, c'est un proche. Et en plus, de manière générale, et ça ne concerne pas que M. Ferrand, c'est quand vous avez été le producteur de la loi et qu'ensuite vous êtes le contrôleur, vous avez toujours l'argument qui peut s'entendre de « on connaît le fonctionnement de l'État, on connaît les contraintes qui pèsent sur le législateur, voire sur le gouvernement quand vous avez été du côté de l'exécutif ». Mais est-ce qu'il est tout à fait sain pour garantir l'état de droit, eh bien, qu'on soit dans une situation où, dans une certaine mesure, vous avez déjà un petit peu pris parti, puisque vous connaissez les contraintes qui pèsent sur les gouvernants. Et ça n'est pas en remis en question par les autorités de nomination en France, et c'est ce qui me paraît le plus problématique.
Dans l'optique d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite en 2027, ce serait donc au RN de nommer un ou plusieurs sages. L'extrême droite qui est très critique envers l'institution, est-ce que le Conseil constitutionnel serait en danger à ce moment-là? Est-ce qu'il pourrait même disparaître?
Alors, à dire vrai, je ne crois pas que l'existence du Conseil constitutionnel en elle-même serait en danger. Moi, ce que je crois, en revanche, c'est vu le populisme anti-judiciaire des partis d'extrême droite et d'une partie de la droite en ce moment, et de manière générale, ce qu'on voit dans les exemples étrangers vis-à-vis des attaques en règle de l'état de droit, la mise en opposition démocratie-état de droit, qui montre une inculture sur la lecture en fait des travaux de la doctrine depuis à peu près 2 siècles, non, l'institution ne serait pas mise en péril, mais on pourrait glisser sur le modèle du cas polonais. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle polonaise n'avait pas été remise en cause en elle-même, mais le pouvoir politique d'extrême droite avant Donald Tusk au pouvoir avait essayé de changer les règles pour en fait nommer des personnalités qui soient plus en phase avec leurs idées. C'est là où est tout le problème et où est l'importance qu'il y ait un processus de contrôle des nominations qui soit aussi plus sain et qu'il y ait plus de contre-pouvoirs robustes, et il y en a peu sous la Ve République, pour éviter ce genre de dérive que certains appellent illibérale.
Richard Ferrand, donc proposition d'Emmanuel Macron, sera auditionné le 19 février, ce mercredi, ainsi que les 2 autres candidats, le sénateur Philippe Bas, choisi par le président du Sénat, et Laurence Wisniewski, choisi par la présidente de l'Assemblée nationale. Thibault Mullier, merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste du droit constitutionnel et auteur du livre « Les relations extérieures de l'État en droit constitutionnel français » publié chez Mar et Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Jugurtha Hammer et Valentin Vaner. Restez à l'écoute de RFI dans un instant, le débat avec Romain Ouzoui.